Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Votre journal des idées en ce vendredi 25 janvier. Vous allez nous faire saliver, Jacques.
Oui, puisque on va faire venir le soleil dans les assiettes et dans les verres.
Avec le sourire. La dernière édition du Guide Michelin est parue cette semaine. Cela ne vous a pas échappé avec son lot de promotions et de déceptions. Et c'est l'occasion donc, Jacques, de parler bonne chère.
Oui, à commencer, Clara, par cette mise au point sur la viande due à l'Australien Ker Watson, ancien végétarien repenti, qui émet des doutes quant aux arguments des opposants à l'alimentation carnée. Ceux qui alertent sur les dégâts environnementaux de l'élevage se fondent sur les pires méthodes de production, affirme-t-il dans Le Point, et de préconiser contre l'élevage intensif des méthodes comme le pâturage rotatif à développer et démocratiser. Déplacer les troupeaux, comme font les herbivores sauvages, permet à l'herbe de repousser, contient l'érosion des sols, augmente la photosynthèse qui absorbe le CO2, et nourrit mieux les animaux. C'est le biologiste Alan Savory qui l'a constaté en Afrique en luttant contre la désertification. Paradoxalement, en augmentant le nombre de grands herbivores, à condition qu'ils se déplacent régulièrement, les végétaux et l'eau étaient revenus en 2 ou 3 ans. Et sur la production de méthane, Ker Watson estime qu'il est difficile d'en évaluer l'impact sur l'atmosphère dans la mesure où l'on ne sait pas exactement la manière dont il se comporte dans l'air, qu'il est beaucoup moins persistant que d'autres gaz et que certaines activités humaines, autres que l'élevage, peuvent accroître sa teneur dans l'environnement. Sur l'aspect nutritionnel, une alimentation variée, équilibrée est évidemment préférable. Mais dans certaines conditions, comme les Inuits au Groenland, qui consomment jusqu'à 90% de leurs calories sous forme de protéines animales, les organismes se sont adaptés sans dommages particuliers. Le pâturage rotatif, de nombreux éleveurs le pratiquent naturellement. La revue 180 degrés, la revue des libres mangeurs qui affiche la température idéale de cuisson, est allée mener l'enquête dans le terroir de la rosée des Pyrénées catalanes, une indication géographique protégée du veau nourri au lait maternel et à l'herbe du pâturage des estives, issue de la race gasconne venue des Pyrénées ariégeoises et reconnaissable à sa belle robe grise ou de l'Aubrac qui n'est pas du coin, mais se complète dans les territoires sauvages et sait se montrer très maternel. Le veau grandit en liberté dans des espaces somptueux. C'est le contraire de l'élevage intensif. Non seulement les bêtes broutent dans les prés ou se repaissent en hiver du fourrage provenant des prairies environnantes, mais à la belle saison, elles grimpent vers différents étages d'estive situés entre 1200 et 2400 mètres d'altitude. Là, une flore riche et variée les attend. Un menu champêtre composé de trèfles alpins, de fleurs de réglisse, de serpolets ou encore de sainfoin. Résultat, de couleur rosée, d'où l'intitulé de l'IGP, assez maigre, très gourmande, riche en oméga 3, la viande a donc le bon goût de ses produits à forte identité paysanne. Commercialisée en circuit court, elle fait le bonheur des restaurateurs du coin, comme à l'auberge du Cellier, étoilée par le guide Michelin, et dont le chef Pierre-Louis Marin détaille les vertus, avec son goût très doux et légèrement noiseté, sa tendreté, elle s'accommode chez lui d'une moelle pochée, s'arrose d'une sauce marchand de vin très réduite et, pour le coup de fouet, d'une émulsion de menthe Pouliot. Pour rester dans la région, on pourrait accompagner l'ensemble d'un breuvage provenant du vignoble de la vallée de l'Agly, 30 km de long, serpentant entre Espira de l'Agly et Codiès de Fenouillède, à quelques kilomètres de Perpignan, une variété de sol qu'on ne retrouve qu'en Alsace et une douzaine de cépages et de vieilles vignes en abondance. Mais les écarts valent le coup à boire et celui de l'étrier. En poussant à l'ouest, la dernière livraison de la revue Le Rouge et le Blanc propose une balade en montagne Saint-Émilion, l'appellation rustique aux terrasses sablo-graveleuses qui délivre, moyennant la treille, un jus puissant. Et puis retour à Mont avec la visite à l'esthète Jérôme Bressy dans les vignes de Rastaud. Nous marchons parmi des ceps épais et tordus qui ont à l'évidence un âge plus que respectable. L'artisan quotidien de la volupté sourde des lieux souligne qu'au départ, c'était une vigne centenaire complantée Grenache Carignan. J'ai ajouté du Mourvèdre, de la Clairette, de la Counoise, du Vacarès et du Cinsault. tout un poème de cépages et puis une alchimie du goût, laquelle commence dans ce jardin de vigne par le travail du sol. Parce que ces argiles-ci, on ne les retourne pas n'importe comment. La vinification est ensuite tout un programme, impossible à résumer ici tant les méthodes et les situations diffèrent. En plus, pour Jérôme Bressy, le domaine Gourde-Motence, la quête du grand vin n'est pas rectiligne. De la vigne à la cave, on peut suivre ce cheminement vers l'excellence. L'intéressé le résume ainsi. « J'essaie de pousser le raisin pour trouver une certaine finesse de texture ».